de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, au plus près des gorilles aujourd'hui, ces grands singes qui nous fascinent tant, nous effrayent et nous émeuvent aussi. Est-ce parce qu'ils nous ressemblent, objets de tant de fantasmes, notamment cinématographiques, si forts et si fragiles, menacés d'extinction? Qui sont vraiment les gorilles? Piste de réponse hors des clichés et des sentiers battus, en compagnie de la célèbre primatologue Shelly Massy, spécialiste des gorilles au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui vient tout juste de rentrer de République Centrafricaine, où elle étudie depuis plus de 20 ans les gorilles sauvages de l'Ouest, découvrant sans cesse des comportements et des capacités inédites chez nos si proches et si lointains cousins, que Shelly parvient même à regarder les yeux dans les yeux, ou presque les yeux dans les yeux des gorilles, où se reflètent comme en miroir nos origines. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les gorilles sauvages de l'Ouest, ceux des montagnes comme ceux de l'Est, bienvenue sur leurs traces sonores. Très étonnant son de gorille. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez. Vous allez nous les traduire, en tout cas, j'espère. Shelly Massy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, surtout le lendemain même de votre retour de mission en Centrafrique, où vous êtes partie un peu en urgence, hein, je crois, sur les traces des gorilles du parc de Dzangan-Doki, donc au sud-ouest de la République centrafricaine, que vous suivez, Shelly Massy, depuis plus de 20 ans, car on vous avait appelé, vous aviez appris des nouvelles assez alarmantes,
oui,
sur les gorilles, vos gorilles.
Oui, c'était une situation un peu, je dirais, tragique, parce qu'on a perdu un doigt argenté d'un groupe.
Un dos argenté, c'est le mâle dominant.
Oui, c'est le mâle dominant qui est la guide du groupe, le chef du groupe. Et on l'a perdu en août. Et après, on a eu l'autre nouvelle en septembre, que le deuxième groupe aussi avait perdu son dos argenté. Et donc, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, parce que je me posais un million de questions. Est-ce que les deux morts étaient liées? Est-ce qu'il y avait des épidémies comme Ebola? Parce que là, on n'est jamais à l'abri. Donc, je voulais voir qu'est-ce qui s'est passé et mieux comprendre sur place, parce que les nouvelles qui arrivaient, c'était un peu contradictoire parfois, à la fois.
Et vous avez pu un peu percer le mystère, à la fois de leur disparition, ils sont morts de maladie, ils sont morts de combat, ils sont...
Apparemment, les deux morts n'étaient pas liés, c'est incroyable, c'est vraiment qu'ils se sont passés en même temps. Et un de deux, apparemment, il est tombé par l'arbre, ça reste un mystère, parce qu'un grand mâle de 200 kilos, c'est vrai que c'est grand pour monter sur un arbre, mais normalement,
ils ne tombent pas.
Ils n'ont pas de problème. Donc, ça reste peut-être un serpent qui l'a mordu et donc l'a fait tomber, mais on n'a pas vu de blessures. Les gens qui étaient sur le terrain en ce moment n'ont pas vu les blessures des serpents. Donc, ça reste peut-être une piste qu'il y a eu un malaise ou une maladie. Par contre, l'autre s'était clairement attaqué par un autre dos argenté. Et ça, c'est malheureusement le cas normal de la socialité des gorilles.
Et bien, on va y revenir justement sur cette socialité des gorilles, mais précisons d'abord, Shelly Massy, quand on dit les gorilles, vous étudiez notamment en République centrafricaine depuis plus de 20 ans, hein, dans ce parc, vous suivez différents groupes de gorilles qu'on appelle des gorilles sauvages de l'Ouest, c'est ça?
Oui, c'est ça, les gorilles de l'Ouest. C'est une espèce de deux espèces de gorilles. L'autre espèce, c'est la plus connue, c'est les gorilles de l'Est. C'est la plus connue parce que ça inclut les gorilles des montagnes qui ont été rendus célèbres par la célèbre Diane Fossé.
Par Diane Fossé.
Qui était la pionnière chercheuse à étudier les gorilles et à les faire connaître à l'international pour mieux les protéger.
Parce que ces gorilles, donc les gorilles de l'Ouest, les gorilles de l'Est, les gorilles des montagnes, vivent tous en Afrique, dans une zone Afrique centrale, et puis un peu à l'Est et un peu à l'Ouest. On va revenir sur cette répartition géographique, mais justement, est-ce que c'est... Vous avez été inspiré par Diane Fossé, on passera tout à l'heure un extrait des gorilles dans la brume. Qu'est-ce qui a poussé la jeune femme, italien, enfin la jeune fille peut-être, voire même la fillette,
oui,
italienne, à venir travailler en France et surtout à vous intéresser aux gorilles, à travailler sur les gorilles, énorme bestiole.
Oui, c'est vrai que quand je suis partie la première fois en République centrafricaine, j'avais 23 ans, donc j'étais très très jeune. Et bien évidemment, j'étais inspirée par Diane Fossey, mais ce n'est pas grâce à elle que j'ai commencé ce métier. C'est plutôt quand j'avais 8 ans que j'ai regardé les documentaires des animaux. Normalement, je suis née avec la passion des animaux, mais je n'aimais pas du tout les primates parce que je voyais le côté négatif des primates, le côté négatif de l'homme chez les primates.
D'accord. J'étais petite, c'est ce que vous voyez.
J'ai regardé, par exemple, les documentaires des chimpanzés qui faisaient la guerre. Donc, je me disais, non, je préfère les autres mammifères.
Les gentils.
Les gentils. Jusqu'à un jour, quand j'avais 8 ans...
Vous êtes tombée sur les gorilles,
je suis tombée sur les gorilles et j'étais totalement capturée par un documentaire dans lequel il y avait deux mâles, jeunes mâles, qui observaient un caméléon. Et déjà, voir un animal qui observe un autre animal, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça veut dire que ce sont des animaux qui ont une sensibilité innée dedans. Et après, un de deux a commencé à caresser le caméléon sous le profil jusqu'à la queue comme ça. Et donc là, je suis tombée amoureuse complètement de gorilles. Et c'était mon rêve, on dit en italien, le rêve dans les tiroirs. Les rêves qu'on ne pense jamais de réaliser dans la vie, c'était vraiment de les étudier pour mieux comprendre leur esprit. Et donc, finalement, ce qui m'avait éloigné des primates, c'est ce qui m'a rapproché des primates.
Et ce qui est assez étonnant, c'est l'humanité des gorilles qui sont quand même, alors on va revenir évidemment sur tous ces clichés, mais qui sont quand même pour nous, les gorilles, c'est la force brute. Ils sont, c'est des animaux qui inspirent plutôt la frayeur. Et vous, c'est leur côté, parce qu'il y a les deux chez les gorilles, c'est ça. Ils sont à la fois des grosses brutes, c'est le cas de le dire, et en même temps capables de douceur.
De douceur, sensibilité. Oui, parce qu'on voit surtout le dos argenté, qui c'est impressionnant. Moi, je les adore, les dos argentés. Tout, les grands mâles de 200 kilos, ils sont très costauds, musclés, parce que leur rôle, c'est vraiment de défendre leur famille. Donc déjà, c'est vraiment... ils ont un rôle très, très familial, on peut dire. Ils gardent vraiment leur force pour protéger leur enfants. Et
donc s'ils sont
famille.
Si féroces et si agressifs, c'est pour protéger leur famille. Vous avez parlé des dos argentés. Alors autour de la question qui sont vraiment les gorilles, qui sont vraiment les dos argentés, c'est une question soulevée par un de nos collaborateurs, le réalisateur Jérémy Besset. On l'écoute.
Bonjour Chélie Massy. On voit souvent dans les documentaires un gros gorille à dos argenté avec son harem de 30 autres gorilles femelles. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une sorte de sous-espèce de gorilles à dos argenté qui sont destinés à devenir chefs ? Ou alors est-ce que c'est une évolution naturelle du gorille mâle en fonction de son statut social ou de son âge ?
Votre réponse sur les dos argentés chez les
Oui, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Non, ce n'est pas une sous-espèce. On parle toujours de gorilles, soit dans l'espèce de l'Ouest, soit dans l'espèce de l'Est. Tous les mâles, à l'âge adulte, ils développent un dos qui est gris, argenté, blanc, exactement comme nous, on devient blanc, les cheveux
comme
blancs.
Comme nos cheveux blancs, les dos argentés, c'est les mâles qui ont un peu vieilli avec l'âge.
C'est ça.
Et ce sont ces dos argentés qui sont toujours les mâles dominants ou pas ou...
Donc, normalement, dans les gorilles de l'Ouest, on n'a qu'un mâle dos argenté qui est le chef du groupe et qui peut rester dans le groupe. Tous les autres, ses enfants, par exemple, ses fils, une fois qu'ils développent le dos argenté, ils quittent le groupe et ils deviennent solitaires. Ah. Et ils cherchent à former une famille, donc à essayer de voler d'autres femelles par d'autres groupes. Chez les gorilles des montagnes, il y a une grande différence parce que plusieurs mâles dos argentés peuvent rester dans le groupe et s'aider. Donc, les deux, il y a un dos argenté dominant et les autres deux peuvent aider le dos argenté dominant à protéger la famille. Comme votre collègue le disait, les dos argentés, les groupes de gorilles des montagnes peuvent compter 30 individus. Or que les groupes de gorilles de l'Ouest,
normalement... Que vous étudiez.
Oui, normalement, ils sont 6, 8 individus en moyenne. Donc, on a aussi 13, 14, mais ce n'est pas 30.
Donc, ce sont ces groupes que vous étudiez, que vous suivez depuis une vingtaine d'années. Enfin, ce ne sont peut-être pas les mêmes. Ils ont évolué, ils ont changé. Ce sont des groupes un peu comme des familles, au fond, on pourrait dire ça. Enfin, un dos argenté, son harem et les petits. Enfin, en gros, c'est ça.
C'est exactement ça, c'est ça. Le dos argenté, et les femelles, son harem, et les petits, normalement, qui sont... du dos argenté. Après, de nouvelles recherches que j'ai menées sur la génétique, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des enfants qui n'étaient pas l'enfant du dos argenté. Et on est en train de creuser encore cette question, parce que comme c'est possible, parce que normalement, chez les gorilles, il y a l'infanticide. Donc, un dos argenté tue les enfants qui ne sont pas ses les enfants. Siens. Et c'est comme ça que les femelles sont libérées du groupe et vont rejoindre d'autres dos argentés qui ne sont pas. Les femelles ne vont pas rejoindre le dos argenté.
Le père de leur enfant ?
Non, ils ne vont pas rejoindre les dos argentés qui a tué son enfant.
Ah.
Ils vont quitter le dos argenté qui n'a pas pu défendre sa famille bien. Donc imaginez, on a un groupe, et il y a un dos argenté qui tue un petit enfant. Ça s'appelle l'infanticide. Cette femelle, elle se sentira plus protégée
par le mâle
dos argenté. Elle va quitter le groupe, mais elle ne va pas rejoindre le dos argenté qui a tué son enfant. Elle va rejoindre un autre dos argenté. Donc il faut le voir, c'est un système social qu'il faut regarder à l'échelle de la population. Donc ça permet de libérer, d'échanger aussi des femelles et donc au niveau génétique de maintenir la population en bonne santé au niveau génétique et diversité génétique.
Et même certaines femelles qui arrivent même à aller voir d'autres dos argentés sans en plus que leur dos argenté ne tue leurs enfants. Donc ça peut arriver aussi.
Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver.
Vous avez d'ailleurs, enfin on n'en parlera peut-être pas trop parce que je crois que ça devrait faire l'objet de publications, vous avez d'ailleurs là dans votre tout récent voyage dont vous rentrez tout juste en République centrafricaine avec vos gorilles, découvert pas mal de choses je crois sur les femelles à suivre, qui ne sont peut-être pas si dépendantes que ça de leur gorille d'or argenté. On n'en dira pas plus parce que je crois que vous travaillez là-dessus en ce moment. Oui. Mais si on vous a invité chez Limassi, c'est au départ parce que vous avez publié une étude. Alors, pas chez ces gorilles-là de Centrafrique que vous suivez depuis 20 ans, mais à plusieurs, autour d'autres gorilles, toujours de l'Ouest, mais qui sont au Congo-Brazza.
Oui.
Voilà, vous avez publié une étude dans une des revues de Nature, hein, de la prestigieuse revue scientifique Nature, Scientific Reports, qui prouvait que les gorilles sont capables d'un comportement qu'on considérait clé de l'évolution humaine, c'est la frappe à main nue de deux cailloux, en fait.
Hein, oui.
C'est ça. Et vous avez démontré que les gorilles, ce qu'on ne savait pas, sont capables de frappe à main nue.
Oui, de faire ce geste qui a été clé dans l'évolution humaine, parce qu'il a permis après de développer la technologie des outils en pierre. Et donc, on était très étonnés de voir deux jeunes gorilles qui ont fait 5 fois ce geste. Donc, il n'avait pas de pierre, mais il avait de termitières. Des pièces de termitière
qui sont solides.
Solides, compactes, parce qu'ils sont faits avec le sol, donc sont très minéraux. Et donc, ils ont frappé l'un avec l'autre pour essayer de faire sortir plus de termites. Or, que ce geste, c'est normalement pas utilisé par les gorilles pour manger les termites. Normalement, ils frappent une pièce de termite sous la main. Mais cette fois, les deux gorilles qui faisaient partie du même groupe ont innové la technique. Ils ont gardé deux pierres dans les deux mains, donc une pierre dans chaque main, et ils ont frappé les deux pierres l'un contre l'autre. Et ça, c'était le geste à la base de la production des éclates qui pouvaient être utilisés comme
pour
les silex, pour les lances. Dans notre évolution.
Ce qui veut dire que les gorilles ne sont pas du tout les plus bêtes des primates et des grands singes, ça c'est clair, bien au contraire.
Pas du tout.
Ce qui voudrait dire aussi qu'ils ont une forme de culture, on parle de culture animale aujourd'hui, mais donc
oui.
Certains gorilles de l'Ouest, mais au Congo-Brazza, frappent à main nue alors que d'autres en République africaine ne le font pas, par exemple.
Oui, c'est une des questions à laquelle je tiens le plus et que je suis en train de creuser parce que. On a besoin de beaucoup d'observations longitudinales pour montrer qu'il y a une culture, mais j'espère de pouvoir montrer que normalement, je pense qu'il y a une culture dans l'alimentation, par exemple, dans les choix alimentaires, mais aussi dans des techniques d'alimentation, comme l'utilisation comme la manipulation des termites. Mais on avait aussi, par exemple, j'ai vu quand j'étais au Congo, j'ai vu le groupe qui c'était au Congo, c'est juste de l'autre côté de la frontière de la République centrafricaine, c'est pas très loin, c'est, pas très loin. 60 kilomètres. Et les gorilles montent sur les arbres à l'aide des dents. Donc, ils utilisent les mains et les pieds, mais ils utilisent aussi les dents. Ils montent avec les dents sur les arbres. Or, que chez les groupes en République centrafricaine, on n'a jamais vu ça. Et maintenant, on a étudié depuis longtemps 4 groupes. On n'a jamais vu ça. Mais de plus en plus, on étudie plusieurs groupes. De plus en plus, on voit des différences entre les groupes qui peut nous faire penser qu'il y a une forme de culture.
Une culture chez les gorilles, autour de la question qui sont vraiment les gorilles. Et comment sortir des clichés, notamment cinématographiques, qui leur collent à la peau? C'est tout le sens de la question soulevée par Valentine Lemaire, qui a préparé la semaine dernière cette émission avec nous.
Bonjour Chélie Massy. Alors j'ai une petite question pour vous. Dans nos imaginaires, on se représente souvent le gorille comme un animal qui est violent, qui est puissant, avec des films comme King Kong. Et je me demandais si c'était un animal qui était vraiment agressif ou est-ce qu'il laisse seulement dans les cas où il cherche à se défendre.
Votre réponse, Chimé.
Votre collègue a très bien posé la question parce qu'effectivement, ce qu'on voit, il est très agressif vers toutes les choses qui peuvent être en danger et réel pour sa famille.
Ah.
Mais une fois qu'il comprend que nous, on n'est pas en danger, qu'on est là-bas juste pour être présent et les observer, il est plus du tout agressif. Or que quand même, il nous considère comme un élément de l'environnement, comme un autre animal qui est autour d'eux. Par exemple, si Macumba, le doigt argenté que j'étudie depuis...
Macumba. Que vous étudiez depuis quand?
Depuis, lui, on le connaît depuis 2001.
Ah oui.
Et lui, bon, si je suis à côté du fruit qu'il veut manger, il peut m'agresser, mais il le fait de la même façon qu'il ferait avec sa fille. Je l'ai vu agresser sa fille parce qu'elle était trop près du fruit qu'il voulait manger. Donc, il y a ce côté, effectivement, un peu...
C'est à moi, et surtout côté dos argenté. C'est à moi, je suis le grand mâle.
Je suis le chef, surtout, par exemple, si maintenant il nous connaît très bien, il est très, très pacifique avec nous, mais si on est sur le schéma qu'il veut prendre, il faut quand même faire attention et se déplacer parce qu'il commence à faire pour dire il faut que vous
enlevez. Attention.
Attention. Mais notre imaginaire, c'est surtout sur la base des doigts argentés. Si on regarde les femelles, on retrouve cette douceur dont on parle, par exemple, avec les enfants. Par exemple, une des femelles de Macumba, elle a eu 2 jumeaux. Et elle était, c'est pas facile de faire survivre 2 jumeaux dans la forêt. Elle était incroyable comme elle a pu réussir à gérer les 2 jumeaux. Elle s'est fait aider par d'autres membres du groupe. Et donc, on voit aussi l'empathie qu'il y a dans le groupe parce qu'elle avait des difficultés même à se reposer avec 2 jumeaux. Et elle a réussi à les élever avec l'aide des autres. Donc,
ah oui, ce sont des familles en fait avec l'aide des autres et même avec le dos argenté qui du coup
oui, même le dos argenté, ça c'est plutôt lié à la personnalité du dos argenté.
D'accord.
Macumba, il est un peu bon, je suis les chefs, mais par exemple le dos argenté qui est mort en août.
Vous les appelez tous par leur prénom?
Oui, bien évidemment. Chacun a son prénom et chacun a son caractère aussi. C'est très différent. Et donc, Mata, par exemple, une fois, on a trouvé une de ses femelles, Boussa, qui avait un câble de braconnier sous sa main. Et donc, on est intervenu, ils l'ont endormi avec anesthésié. Et donc, le doigt argenté, là, lui, il était, par exemple, il est très, très doux avec, il était très doux avec ses enfants. Il a tout de suite essayé de prendre Voussa dans ses bras pour la protéger.
Prendre sa femme dans ses bras.
Mais il n'a pas réussi parce que quand même, elle était
très lourde.
Très lourde. Mais elle avait un petit bébé de quelques mois. Et c'est la première fois qu'on a vu un doigt argenté prendre ce petit bébé, le mettre dans son dos, grand dos. Et c'était vraiment une scène vraiment de douceur incroyable parce qu'on ne savait pas que les doigts argentés pouvaient être si doux avec leur enfant. Et parce que de plus en plus, on connaît des différents gorilles et de plus en plus, on voit que leur personnalité est différente.
Et à chaque fois, c'est différent. On y viendra aussi sur la manière dont vous les observez, parce que vous venez toujours à distance,
oui.
Vous ne les approchez pas, on va y revenir. Mais est-ce que vous avez eu des mésaventures, peur parfois quand même, face à un dos argenté? On a compris qu'il peut être sensible et très doux avec ses enfants ou avec ses femmes, ses femelles. Mm-hmm. Mais enfin, je ne me retrouvais pas face à face, moi.
Hein. Je ne peux pas compter les fois que j'ai eu peur, parce que pendant l'habituation, donc
il faut qu'ils s'habituent à vous,
à notre
en fait.
Présence. Mm-hmm. Oui, normalement les gorilles sauvages, quand on les contacte, ils vont crier et partir en vitesse.
Ça fait quoi comme cri, les gorilles?
C'est vraiment comme un lion. Ils font waouh, mais je peux pas le faire. C'est vraiment waouh, 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 comme ça. C'est vraiment beaucoup plus fort. Et après quelques mois qu'on le contacte comme ça, on se fait voir, on fait un bruit, par exemple, qu'on appelle claquement, pour essayer de faire comprendre que c'est nous et que le bruit qu'il entend, c'est nous, et pour le faire associer à notre présence. Donc, okay. C'est comme notre vocalisation.
Ouais.
Et donc, au fur et à mesure des mois, il s'habitue un peu et il n'échappe pas au début de claquement, mais il commence peut-être à venir nous charger. Et ça dure pour 8 ans.
Ah, pendant 8 ans, il va vous charger, qu'on fait clac-clac. Et qu'est-ce que vous faites? Je ne voudrais pas me faire charger par un gorille.
Il faut absolument rester immobile, pas bouger. Et quand il vient à toute vitesse vers toi en criant, parce que sinon, c'est une forme de soumission. Si on échappe, ils vont nous mordre.
Et c'est qu'il ne faut pas se mettre à courir. Et les canines pas.
Les canines de dos argenté sont comme ça, sont à plus de 10 cm.
Énorme. Et donc vous, toute fine chez Limacic, il faut vous rester impassible, sans bouger.
Impassible, sans bouger rien, parce que ça peut vraiment, ça joue sur les secondes, sur les millimètres. Parfois, quand ils ont plus peur que de nous, pas beaucoup plus peur de nous, ils viennent vraiment à quelques centimètres, en toute vitesse, et ils dévient à la dernière millimètre, je dirais. Et surtout quand il y a des femelles avec des petits qui crient. Donc la femelle crie oh, oh, oh. Le petit aussi il crie parce qu'il a peur que la mère crie, et le dos argenté peut-être est éloigné, on l'entend arriver, on entend bon 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 qui crie avec un galop à toute vitesse, et là on voudrait vraiment disparaître, télétransporter dans quelque part, mais malheureusement il faut attendre ton dessin, être immobile et attendre qu'il arrive contre nous. Et normalement, 98% du temps, il dévie. Mais si il dévie vraiment à la dernière minute. Mais si la situation est très grave, il peut aussi nous agresser.
Mais ça donc, ne vous l'enjeu, est pas trop pas arrivé.
C'est arrivé pas à moi parfois, arrivé en main ou quelque chose qu'il m'a tiré. Mais malheureusement, certains des pistères AK ont été mordus pendant l'habituation. Normalement. Malheureusement, c'est quelque chose presque incontournable. Parce qu'on fait des erreurs. Bien parfois, sûr. On a des mouches partout, donc on n'entend pas bien. On rentre dans la végétation très dense. Ce n'est pas toujours facile de les voir à l'avance.
Ça ne m'étonne pas, Chélie Massy. Et vous avez parlé de vos pisteurs AK autour de la question jusqu'où nous entraînerons les gorilles dans les forêts de Centrafrique et dans toutes celles du bassin du Congo. Parce que ceux qui les connaissent le mieux, ce sont effectivement les pygmées AK, méprisés, ignorés. Hein. Ces peuples de la forêt ont un savoir et des connaissances précieuses. Vous travaillez avec eux. Vous avez d'ailleurs même appris leur langue. Enfin, vous parlez plusieurs langues locales. Vous parlez
le Sango, que c'est la langue de la République centrafricaine. Exactement, je l'ai appris tout début parce que pour pouvoir travailler avec eux qui ne parlent pas français ou anglais. Et non plus italien.
Et vous parlez aussi la langue
AK. Au fur et à mesure que j'ai passé du temps avec eux, je peux échanger quelque chose sur les gorilles en langue dans le AK, parce que je les entendais toujours parler quand on trouvait les traces. Je voulais comprendre ce qu'ils se disaient sans trop les embêter. Donc, j'ai appris un peu leur langue pour pouvoir échanger avec eux. Mais eux sont vraiment les acteurs masqués de mes recherches, parce que sans eux, on ne pourrait jamais, jamais suivre les gorilles, retrouver la même famille chaque jour, parce qu'eux sont des chasseurs-cueilleurs. Et donc, ils sont les seuls capables de retrouver les traces des gorilles. Et les gorilles de l'Ouest ont été très, très difficiles à être habitués en Afrique. Et en République centrafricaine, on a eu la chance d'avoir des baaka, comme on les appelle en Centrafrique, qui pouvaient vraiment, qui étaient très bien et qui pouvaient vraiment faire la distinction entre des traces, par exemple, de gorilles ou de chimpanzés. Ils voient une petite feuille pliée, ils disent, les gorilles sont passés par là. Et moi, je demande, pourquoi pas un chimpanzé ? Ils disent, non, c'est un gorille, tu vois, mais moi, je ne vois rien. Mais c'est grâce à eux et c'est pour dire qu'on les a même envoyés au Gabon, au Cameroun, pour faire l'école des pisteurs là-bas parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver habituellement les gorilles.
Les pisteurs Aka, voilà pourquoi vous avez eu envie d'écouter leur musique. Alors, on vous propose, Shelly Massi, ce morceau d'une groupe Ndima. Ça veut dire la forêt,
je crois, en Aka.
C'est ça. Monté d'ailleurs par l'anthropologue Sorel Etta et ses amis Aka, qui étaient récemment notre invités. On va écouter un morceau extrait de leur album Makingo Nadima, Les Voix de la Forêt. Peut-être pourriez-vous me traduire le titre de ce morceau, Bambenga Nadilo.
Nabilo,
pardon.
Bambenga, c'est un nom qu'on utilise pas très bon pour dire les populations Bayaka, Bambenga.
Et pour Bilo, dire les pygmées, les sales pygmées en gros. Oui.
Et les Bilo sont les Bantous. Mais
les sales Bantous, en gros, c'est ça. Et bien c'est justement sur le rapport entre les pygmées et les Bantous, ce morceau qu'on écoute tout de suite sur RFI.
Bambongo, nabilo, omuse, aye. Bambongo no bilo e omuzo.
Extrait d'un morceau du groupe Ndima, des Aka, des Voix de la Forêt. Vous travaillez avec les pisteurs Aka, vous avez appris leur langue aussi, Aka. Comment on dit d'ailleurs, alors que ce soit en Sango, en langue de République centrafricaine, ou bien en Aka, comment est-ce qu'on dit les gorilles? Il y a un mot, évidemment, pour dire les gorilles.
Oui, il y a un mot en Sango, c'est Ngile, et en langue Aka, c'est Ebobo. Et normalement, on dit Ebobo parce que je parle toujours avec eux. Dans la forêt, je connais toutes les plantes dans les Aka, les noms Aka.
C'est ça, parce qu'en fait, ces pisteurs Aka qui connaissent la forêt mieux que quiconque, vous l'avez dit, qui savent retrouver, c'est ça, hein, retrouver la piste du moindre trace de gorille, oui. Hein, très compliqué à chercher, à étudier. Les gorilles de l'Ouest que vous étudiez chez Limassi sont très peu étudiés autour de la question qui sont les gorilles. Et c'est grâce aux Aka que vous pénétrez quoi leur monde, mais aussi la manière dont. Ces gorilles se soignent, les plantes qu'ils mangent, oui. Leur alimentation, c'est ça?
Oui, souvent, quand j'ai observé les gorilles manger des plantes, les pisteurs à côté de moi, ils me disaient « Ah, mais les gorilles sont très intelligents parce qu'ils sont en train d'utiliser une plante que nous, on utilise dans la médecine traditionnelle comme vermifuge, par exemple. » Ou une autre fois, par exemple, il y avait une petite gorille qu'elle était malade depuis 3 jours, elle avait la diarrhée. Et bon, ça peut être très grave aussi pour un petit gorille. Et donc, à un certain moment, le pisteur à côté de moi, il m'a dit « Ah, Mais elle est folle, elle est en train de manger une plante qui est très venimeuse,
oui.
Pardon. Venimeuse, qu'on l'utilise dans la pointe de la flèche pour tuer les singes. Et donc, il était très préoccupé parce que c'était une plante quand même toxique.
Oui, oui.
Et les résultats, c'était que le jour d'après, elle n'avait plus la diarrhée. Cela dit, ce sont des observations qui restent un peu anecdotiques et c'est difficile de faire une... Parce que les gorilles sont rarement malades dans la forêt. Et donc, on a très peu d'observations. On peut, ce qu'on a pu faire avec aussi ma collègue Sabrina Krief, on a
comparé... Oui, qui elle travaille sur les chimpanzés et sur les médicaments des chimpanzés.
Les médicaments des chimpanzés, exactement. Mm-hmm. On a comparé ce que les gorilles mangeaient et ce que les chimpanzés mangeaient. Effectivement, aussi les gorilles manger des plantes médicinales, mais plutôt tous les jours. C'est comme pour se maintenir en bonne santé.
Voilà pourquoi ils ne sont pas malades, peut-être. Oui. Hein. Mais c'est la médecine préventive chez les gorilles.
Oui, mais les chimpanzés, ils le mangent de façon très ponctuelle quand ils sont malades. C'est ça la grande différence entre les deux.
Mais en tout cas, il y a toute une pharmacopée à étudier dont se servent les gorilles, mais une pharmacopée que connaissent les Hakas, bien sûr, qui s'en servent. Donc là, il y a aussi une étude à faire ensemble sur tous ces savoirs-là de la forêt.
Oui, j'ai comptabilisé plus ou moins 10% des plantes que les gorilles mangent sont utilisées dans la médecine traditionnelle chez les Hakas.
Et puis, ce sont aussi des régions, que ce soit en République centrafricaine, où vous n'avez pas pu aller pendant un petit moment, chez Limassi, ou bien au Congo-Brazza, ou en RDC, des régions où il y a des troubles et où parfois on a très peur des gorilles, mais on se dit que finalement les hommes sont plus dangereux que les gorilles.
Malheureusement, oui.
Malheureusement, la célèbre primatologue dont on a parlé, Diane Fossey, qui a consacré sa vie aux gorilles, elle en a fait les frais, hein, la tragique expérience. Elle a été assassinée en décembre 1985, alors c'était dans le parc des volcans, hein, entre l'actuel Rwanda et l'ex-Zaïre, où elle vivait depuis 18 ans, pour étudier les gorilles. Elle avait même fondé une ligue de défense des gorilles. C'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie. Je vous propose d'écouter un extrait du film Gorille dans la brume. Oui, merci. Avec Sigourney Weaver, qui interprétait le rôle de Diane Fossey. Un petit extrait, vous me direz si vous vous y reconnaissez, si vous vous y retrouvez vous aussi, chez Limassi, avec ces gorilles. On écoute donc Sigourney Weaver, qui interprète Diane Fossey.
Je me suis progressivement approchée des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Il garde ses distances, mais observe tout très minutieusement. Je m'approche d'eux à 10 ou 20 mètres, sans qu'ils paraissent avoir peur. Au fil des jours, j'espère m'en approcher assez pour établir un véritable contact.
D'ailleurs, le grand Georges Chaleur, qui consacra sa vie à étudier les bêtes sauvages, eut la sagesse de garder ses distances. Soyez prudente.
Pour la première fois la semaine dernière, deux gorilles enfin m'ont approché. Plein de vivacité et d'entrain. Le dos argenté a observé la scène avec grand intérêt. Il ne me quitte pas du regard.
Diane, pour l'amour du ciel, je vous adjure d'être prudente. Georges Chaleur lui-même n'a jamais réussi à établir un contact physique avec des gorilles. Et le mâle dominant peut être extrêmement dangereux.
La semaine dernière, deux jeunes gorilles ont joué autour de moi pendant une heure. Je ne puis vous dire mon émotion. Cela vraiment m'a payé de tout. Je les ai amadoués en les imitant. Ils sont fascinés par mes grimaces et par des facéties dont je rougirais dans un tout autre contexte. Je me sens une fiefée idiote.
Face aux gorilles, c'était Diane Fossey. Chez Limassi, est-ce que vous aussi, vous faites des grimaces pour amadouer les gorilles?
Non, on ne le fait plus parce que notre stratégie maintenant, c'est plutôt d'être un élément neutral de l'environnement. Donc, on n'interagit pas avec les gorilles pour ne pas aussi
modifier leur comportement
pour pouvoir
Donc vous les habituez pendant un temps extrêmement long, enfin vous les habituez à votre présence, oui. Mais en tant que
élément neutral de l'environnement. Avant je disais comme un arbre, maintenant je dis comme un animal parce que, et comme je vous ai dit avant, parfois il dérange si on est sur les schémas ou... Mais normalement, les choses sont changées depuis Diane Fosse et
depuis aussi Jane Goodall,
qui donnait à manger aussi pour les approcher. Nous, on sait aujourd'hui qu'on peut transmettre des maladies respiratoires, par exemple, de nous aux gorilles et aux chimpanzés, qu'ils peuvent mourir pour un simple rhume qu'on peut avoir ou des bactéries qui sont dans nos mains. Et donc, surtout pas, on ne les touche pas. On reste à une distance de 5-10 mètres. Après, parfois, la réalité, c'est qu'ils viennent plus près.
Mmh, bien sûr.
Mais on fait toujours attention. On a des masques. C'est pas bien avant le Covid, on a des masques pour rencontrer les gorilles, pour éviter qu'il n'y ait aucune contamination de l'homme vers les gorilles.
Au fond, vous avez presque plus peur de la contamination de l'homme vers les gorilles que des gorilles vers l'homme.
Oui, c'est sûr. C'est nous qui on les approche, donc on a un devoir moral de ne pas faire du mal aux gorilles. C'est surtout ça. Mais c'est vrai que je prélève des urines, des crottes de gorilles, des fesses. Et là, j'ai fait attention aussi avec la contamination de eux à nous, parce qu'ils vivent quand même dans des endroits où il y a des maladies qui
sont... Bien sûr, et ils sont eux aussi, enfin vous l'avez dit, alors victimes très menacées, parce qu'ils ont été victimes d'Ebola, comme les humains, mais bien plus que les humains.
Bien plus que les humains, oui.
Et puis ils sont menacés par leurs habitats, par le braconnage, par aussi les conflits, j'imagine, meurtriers tout autour, et puis la misère parfois des populations qui braconnent pour vivre aussi.
Oui, surtout par exemple, l'instabilité politique peut faire si qu'il y a beaucoup de rebelles qui se cachent dans la forêt, qui font du braconnage, donc il y a une augmentation du braconnage à cause aussi de l'instabilité politique, la destruction de l'habitat, la conversion de l'habitat en habitat agriculture, de la forêt qui est convertie en agriculture. Et le braconnage aussi. On a récemment un petit qui a un câble de braconnier à son orteil, par exemple.
Ah oui. Et dans ces cas-là, vous intervenez ou pas? Parce que justement, vous ne voulez pas être... Vous les laissez vivre ou mourir, mais vous les laissez vivre. Vous travaillez en lien avec les populations. Maintenant, beaucoup de projets se font en lien avec les populations.
Oui, c'est fondamental.
Évidemment, mais est-ce que vous intervenez ou pas quand vous... Parce que les égorilles que vous appelez par leur nom et que vous suivez depuis des années, vous devez être quand même assez proche.
Oui, c'est difficile de ne pas intervenir. Et c'est vrai que si c'est la cause, c'est l'homme, on intervient parce que c'est nous qui on les a... on a fait du mal. Par contre, s'il y a des luttes entre deux gorilles, et c'est plutôt naturel, on laisse faire la nature, même si ce sont des gorilles sur lesquels on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Donc la question se pose toujours et ça dépend des différents endroits. Par exemple, chez les gorilles de montagne, il y a des vétérinaires qui interviennent tout de suite. C'est très, très bien... organisé pour l'intervention et la protection des gorilles.
Mais un peu moins pour les gorilles de l'Ouest que vous étudiez. C'est des régions plus pauvres et où il n'y a pas de touristes.
Oui, il y a un peu de touristes qui viennent et les gorilles sont habitués par le WWF de la RCA en partenariat avec le gouvernement de la République centrafricaine pour pouvoir amener des touristes. Mais les gorilles les habitués sont beaucoup moins, donc c'est pas chez les gorilles des montagnes. Il y a 90% de la population qui est habituée à l'homme, donc on les connaît presque tous et il y a vraiment des vétérinaires stables là-bas qui chez nous on monitore plutôt leur santé. Les WWF monitore leur santé avec des échantillons de fesses et un vétérinaire qui est au village, mais les interventions sont moins présent, mais quand même, s'il y a des choses graves, oui, on intervient.
Et est-ce que vous les regardez dans les yeux, vos gorilles, enfin pas vos gorilles, mais les gorilles que vous suivez, que vous étudiez depuis plus de 20 ans chez le Messi?
Oui, quand ils sont calmes, on peut les regarder dans les yeux. Je me rappelle aussi une fois qu'il y avait la pluie toute la journée. Il y avait le dos argenté. On était dans une clairière. On appelle une saline au milieu de la forêt où il n'y a pas des arbres. Il y avait la pluie qui battait. Et j'avais le dos argenté, Macumba, qui était... Moi, j'étais morte de froid. Et lui qui me regardait à quelques mètres. Vraiment, il me regardait comme ça. Il me disait... j'étais sûre qu'il était en train de me dire « Mais pourquoi tu restes là à me regarder? Tu ne rentres pas au campement qu'il fait tellement froid. » J'avais vraiment l'impression qu'il me disait ça. Et après, il s'est frappé la poitrine, mais juste pour se réchauffer un peu. Mais c'était vraiment un moment intense d'échange de regards.
Quelque chose qui passe dans le regard.
Oui. Il faut faire attention de ne pas trop regarder quand il n'est pas sûr s'il veut nous venir charger ou pas. Là, ça peut déclencher une charge. Donc, on peut le regarder dans les yeux, mais il faut savoir quand.
Autour de la question jusqu'où nous entraînerons les gorilles, chercher la massie, gare aux gorilles, vous n'échappez évidemment pas à la célèbre chanson de Brassens, mais remixée par notre réalisateur Thibaut Baduel, alors dans sa version originale en français, mais aussi en italien, ça c'est juste pour vous, Chélie, avec Fabrizio De André.
Merci.
Et même en version africaine, plus exactement camerounaise, avec Christo Noupoumbi, gare aux gorilles, sur RFI.
Super.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux gorilles. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare. Il mio gorilla, fate attenzione. Non ha veduto mai una scimmia. Potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. A cavo gorille.
Supposé che l'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il les deux? Une alternative pareille, un de ces quatre joue mes choix. C'est, j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare aux gorilles. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Leur rôle d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui. Il saisit le juge à l'oreille et il l'entraîna dans un maquis. Gare aux gorilles. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable. Ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare aux gorilles.
Gare aux gorilles sur RFI en version camerounaise, française et italienne, c'est pour vous, Chélie Massie, évidemment.
C'était magnifique, vraiment magnifique.
On n'a pas résisté à vous la glisser entre les deux oreilles, si je peux me permettre. Chélie Massie, je rappelle que vous êtes primatologue, spécialiste des gorilles au Muséum National d'Histoire Naturelle et que vous rentrez tout juste de Centrafrique, où vous suivez les gorilles de l'Ouest, dans le parc de Dzanganoki, c'est au sud-ouest
de la République
centrafricaine. Une région qui est troublée, j'ai envie de dire, pour les hommes, comme pour les gorilles. Au fond, nos destins sont quoi ? Sont un peu liés aussi, finalement.
Bah oui, tout est très lié, parce que c'est sûr que si l'homme a une pression sur la forêt, les gorilles et la forêt ne vont pas bien. Donc, et c'est vrai que depuis 2013, il y a une guerre civile en République centrafricaine. Donc, en 2013-2014, les rebelles sont descendus à Dzangasanga. Et
Jusque dans le parc.
Oui, oui, et ils ont tué beaucoup d'éléphants. Et donc, au niveau environnemental, était vraiment très problématique. Et dans les années suivantes, on a vu vraiment beaucoup moins d'éléphants, par exemple, dans la forêt. Et j'étais très contente de voir que les éléphants sont en train de revenir maintenant.
Ah, ils reviennent malgré tout. Et les gorilles ont souffert de ces
Les gorilles aussi, effectivement, en 2016, quand j'étais là-bas, un gorille a été tué par un braconnier juste à côté de moi quand j'étais en train de les observer. Le problème, c'est que quand il y a une guerre civile en cours, il y a beaucoup plus de cartouches, il y a beaucoup plus d'armes qui circulent, donc il y a plus de braconnage. Et surtout, les éco-gardes avaient plus... il a été confisqué. Les éco-gardes qui défendent les parcs grâce au WWF et au gouvernement, ils n'avaient plus des armes pour se défendre. Et aujourd'hui, ils retournent à leur pleine activité et on voit déjà les résultats sur
immédiatement, la forêt. Tant mieux. Autour de la question des gorilles, qui est aussi celle de notre humanité et que vous étudiez, je propose une dernière question soulevée par l'économiste Gaël Giraud, qui était tout récemment notre invité et qui est le créateur et directeur de la première chaire de justice environnementale et sociale, les deux vont ensemble, à l'université de Georgetown, à Washington, aux États-Unis. On l'écoute.
Oui, bonjour Shelley, et félicitations pour votre travail. La question que j'aurais envie de vous poser, elle me vient des travaux qu'on est en train de mener dans mon laboratoire à Georgetown University, puisque j'ai une collègue qui travaille sur la question de l'empathie des dauphins. Et donc sur la question des gorilles, je me doute que vous assistez en fait à des manifestations de relations d'empathie entre les gorilles, mais aussi la question c'est, est-ce que vous voyez des expressions d'empathie des gorilles vis-à-vis de nous ? Est-ce qu'au fond, les gorilles arrivent à nous aimer en dépit, quelquefois, des souffrances que nous leur infligeons ?
Est-ce qu'il est possible de répondre à
C'est une question difficile parce que de l'empathie, bien évidemment, on la voit, surtout vis-à-vis de la mort. On voit les individus qui retournent à leur... avoir les corps, par exemple, d'argenté qui vient de mourir. Sont les femelles qui ont amené les pistères à trouver le corps d'argenté parce qu'elle revient... chaque fois revoir le corps. Je pense dans l'espoir qu'il se réveille.
Peut-être, oui. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à
la mort. Oui. J'ai aussi publié un article pour montrer qu'effectivement, ils ont une empathie de la mort, même vis-à-vis d'autres animaux. J'ai vu aussi des réactions de gorilles qui ont trouvé un pot-à-mouchoir, c'est un cochon de la forêt, un sanglier de la forêt, et qui ont eu une réaction différente de quand ils le rencontrent, qu'ils sont vivants. Donc, qui nous montrent vraiment qu'ils ont
une conscience de la
conscience
mort.
De la mort. Vis-à-vis de nous, c'est un peu plus difficile parce que nous, on essaie de ne pas interagir avec eux. Donc, c'est difficile de voir. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'ils nous reconnaissent très bien. Quand j'étais rentrée en Europe pour écrire ma thèse, donc je me suis absentée pour 2 ans. Je suis revenue, les gorilles ont montré quand même des comportements qui montraient qu'ils me reconnaissaient, ils venaient vers moi. Au bout de 2 ans, oui, le petit essayait de venir me toucher. Bien évidemment, j'ai reculé parce que ce n'est pas possible, mais pour 3 jours de suite, ce n'est pas normal. Les femelles sont venues à me regarder vraiment de façon très près et pour longtemps, un comportement qui n'est pas normal. Et donc, qui montre quand même...
Qu'ils ont une mémoire, une reconnaissance.
C'est sûr. Qui nous reconnaît bien. Mais je pense que l'empathie, la majeure empathie, c'est à nous de l'avoir vers eux pour pouvoir les protéger et pouvoir sauver ce cousin qu'on a vivant encore.
Ces cousins vivants, exactement, sur lesquels vous travaillez chez Limassi. Et je sais d'ailleurs qu'il y aura à suivre un certain nombre de publications sur nos cousins et nos cousines gorilles, qu'on va suivre avec attention. J'espère que vous reviendrez pour nous en parler.
Avec plaisir.
Merci en tout cas infiniment d'être venu en direct chez Limassi, partager vos travaux et vos découvertes sur les gorilles à peine rentrées de République centrafricaine. On apprécie vraiment, peut-être que vous voulez saluer sur place vos collègues. Collègues, amis, en français, en sango, en haka, comme vous voulez.
Barala kwe, na bangi, na zangasanga kwe, bitoto ala mingi. Au revoir tout le monde.
Merci Shelley Massy.
Autour de la question sur RFI.
Sur RFI à Bangui, vous nous écoutez sur 99.8 autour de la question « C'est fini pour aujourd'hui ». N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, autour de la question « Pourquoi tant d'oubliés de la science ?» Alors oubliés, il y a beaucoup de femmes évidemment, mais pas que, parce que outre le sexisme, il y a eu aussi pas mal de racisme en science comme ailleurs. La preuve en BD demain. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver le journal.